Marie, toute le bois du Mali. Chifina, donc qui va rouvrir ta flèche, l'être des jeunes.
Vous êtes des millions d'auditeurs à nous suivre à travers le monde. Merci de rester fidèles à Studio Tamani. Et oui, c'est ici que le meilleur est toujours servi. Installez-vous confortablement, c'est l'heure du programme Jeune. Pour la présentation aujourd'hui, Sally Sissoko et Juliette Koulibaly. Alors Julie, comment vont les choses?
Oui, je vais super bien et j'espère de même pour toi.
Moi, j'ai de l'énergie à revendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pour nos amis jeunes?
Des jeunes des associations politiques et civiques plaident pour l'application des 40% du quota alloué à la jeunesse dans les instances de prise de décision. Une rencontre s'est tenue cette semaine sur la question. Nous allons à la découverte de Jakarija Diko, un réparateur non-voyant dans la région de Mopti, et c'est dans le portrait de la semaine. L'histoire de Sambou Koumba nous sera narrée par Fili Sissoko de Tamba Feto dans le cercle de Bafoulabé. Et nous terminons évidemment par le sport.
Julie, la jeunesse malienne se mobilise pour l'application du quota de 40% dans les instances de prise de décision.
C'est le nouveau plaidoyer porté par le consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes. Ce consortium a organisé une journée d'échange avec le ministère de la jeunesse sur la question.
C'était ce 11 décembre au CICB.
Ziarata Maïga était sur place pour Studio Tamani.
Parmi les recommandations des états généraux de la jeunesse de 2023, figure l'adoption d'une loi instaurant un quota de 30 à 40% pour la jeunesse dans les postes nominatifs et électifs. Le consortium des organisations politiques et civiques des jeunes se mobilise pour la mise en œuvre de cette recommandation. Binetelli, membre du consortium.
Donc l'idée, c'est que les jeunes puissent avoir une épreuve d'activité de 40% au niveau des postes électifs et des postes nominatifs. Nous allons continuer avec les plaidoyers, nous allons continuer à rencontrer les autorités. Nous sommes en train de rassembler l'ensemble de la jeunesse politique et de la société civile du Mali afin que cette loi puisse être une réalité.
Pour de nombreux jeunes, cette initiative pourrait renforcer l'implication des jeunes dans le développement et la bonne gouvernance.
Ce projet de loi va être une grande avancée pour la jeunesse.
Et maintenant, c'est à la jeunesse de se battre pour cette place-là, quoi. Parce que même si on met une loi, s'il n'y a pas de jeunes pour opter pour leur bien, ça serait pour moi futile, quoi.
Ça ne sera pas pour nous, sur les jeunes leaders politiques, mais pour tous les jeunes du Mali.
Cela ne va que renforcer le développement d'un pays. Et c'est salutaire pour moi.
Le ministère de la jeunesse s'est engagé à accompagner cette initiative. Il invite cependant le consortium à multiplier les réflexions sur la question. Mohamedou Abdelaziz, directeur national de la jeunesse.
Nous nous réjouissons d'avoir été associés à cette réflexion et à les accompagner pour améliorer leur prise en charge dans les instances de décision. Il va falloir démultiplier cette réunion pour atteindre le maximum d'acteurs concernés par la question. Le ministère se fera le devoir de porter en ce moment-là le document qui sera issu de ces larges consultations.
Il est à noter que les recommandations issues de la rencontre ont été officiellement remise au ministre de tutelle.
Amis jeunes, vos avis et suggestions nous intéressent. Vous pouvez nous les faire parvenir via notre page Facebook ou notre compte X.
Dans l'enseignement supérieur, les professeurs les plus gradés sont généralement du troisième âge.
Et les jeunes sont souvent relégués au second plan car ils sont taxés d'incompétents et d'inexpérimentés.
Mais Julie, la tendance est en train d'être inversée actuellement.
Dans ce reportage, Lala Diarra Touré est allée à la rencontre de deux jeunes professeurs. L'un est maître de conférences et l'autre docteur.
Mokhtar Sidibé, aujourd'hui maître de conférences en sciences de l'éducation, a pris la première fois la craie à l'université. À l'âge de 27 ans. Il dit avoir forcé l'admiration de ses apprenants et ses autres collègues dès ses premiers instants.
Mon allure, je n'ai pas été un handicap majeur dans l'exercice de ma profession, il faut le dire. Elle a quand même provoqué un réel émerveillement du côté des étudiants, tout comme celui des collègues enseignants.
Docteur Yacouba Dogouni, sociologue, est lui aussi jeune professeur à l'université. Il affirme avoir de bons rapports avec ses étudiants.
Elles sont arrivées très jeunes. Pour les étudiants, en fait, ils me respectaient beaucoup. Beaucoup se voyaient déjà en moi, j'étais leur référent. Et déjà, chaque fois que je prenais le micro, bien que je suis en classe, en réalité, tout le monde était attentif.
Ces jeunes professeurs ont su faire de leur jeunesse un atout majeur pour ainsi créer une relation de confiance confiance avec leurs étudiants. C'est du moins l'avis de ces étudiants rencontrés dans une faculté à la cité universitaire de Kabbalah.
Les jeunes professeurs de l'enseignement supérieur sont compétents et convaincants.
Aujourd'hui, apportent une énergie et une façon de se renouveler dans le milieu académique.
À l'image de M. Dogoni et M. Sidibé, aujourd'hui, beaucoup d'autres jeunes ont brisé le mystère autour de l'âge. Ils constituent une source d'inspiration pour la couche juvénile.
À présent, place à notre mini-mac de la semaine. Notre mini-mac de la semaine s'intéresse à la consommation du collagène, Julie.
Tout à fait. Le collagène, qui est longtemps réservé aux athlètes, s'affiche actuellement dans les boutiques cosmétiques et chez des particuliers à domicile.
Ce sont des produits importés, parfois vendus par des personnes non spécialisées dans le domaine. Et la junte féminine s'en procure sans prescription ni avis d'un professionnel de santé. Alors, le collagène est-il dangereux pour la santé?
Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Omar Waigalo.
Ces produits présentés comme des compléments alimentaires sont parfois vendus dans les boutiques cosmétiques. Ils sont en gélule, en poudre ou en comprimé. Madame Nimaga Aïssata Haïdara, vendeuse à Bamako Koura, vante les mérites de ces produits.
Le collagène, ça rajeunit, ça renforce le système immunitaire, donc ça ralentit même le vieillissement. Le collagène, ça donne de l'éclat, ça éclaircit. Voilà, même les boutons et les taches. Donc ça enlève tout ça.
Ces produits influencés par les réseaux sociaux sont prisés par des différents types de consommateurs. Chacun avance ses raisons.
Certains le font pour les ongles. Elle est claire. Elle n'a ni tache ni bouton.
En général, ces produits viennent de l'Inde et de la Thaïlande. Leur consommation est-elle risquée? Selon des spécialistes en santé, des premières études menées ont démontré les conséquences de ces produits sur la santé. Docteur Kouraïssi Tall, dermatologue à l'hôpital de dermatologie de Bamako.
C'est quelques années qu'on remarque que il y a sur le marché beaucoup de produits que la population utilise. On dit que ça rajeunit la peau, blanchit la peau, ça donne un bon teint. Il y a des études qui ont montré que derrière cet éclaircissement, il peut exister des conséquences qui peuvent être graves pour la santé.
Parmi les conséquences que ces médicaments peuvent engendrer figurent l'insuffisance rénale et la maladie du foie.
Dans notre rubrique portrait, nous irons aujourd'hui à la découverte d'un prêteur de moto qui sort de l'ordinaire.
Tout à fait, Sally, un non-voyant résident à Mopti, Djakari Djadiko, car c'est de lui qu'il s'agit, fait de l'exception. Notre correspondant de Mopti, Mamadou Komina, est allé à sa rencontre.
Nous sommes ici à l'atelier de Djakari Djadiko. Ce jeune non-voyant est en train de réparer en ce moment une moto. La réparation concerne la spape moteur. Notre interlocuteur du jour s'est converti en réparateur après avoir abandonné les études.
Mon travail, c'est la réparation des motos. J'ai grandi avec ce handicap. J'ai commencé ce travail depuis que j'étais à l'école. Un jour, je n'arrivais plus à lire mon cahier. Par la suite, j'ai abandonné l'école. J'ai d'abord commencé par le collage des pneus. Puis, j'ai appris à réparer les motos. J'ai aussi bénéficier d'une formation.
Son travail est pourtant très bien apprécié par sa clientèle, comme en témoignent ses quelques clients rencontrés sur son lieu de travail.
C'est la soupape de ma Jakarta qui était déréglée. Je suis venu, il l'a réglée. Même s'il est non-voyant, il sait faire son travail.
Moi, quand je lui ai donné ma moto, beaucoup de pièces n'étaient pas bonnes. Les pièces que j'avais achetées coûtaient jusqu'à 20 000 francs, mais il a pu réparer.
Jakarija n'a qu'un slogan, travailler pour subvenir à ses besoins. Il précise que les handicaps n'est pas synonyme de mendicité. Malgré les difficultés et les contraintes, Jakaria parvient à tirer son épingle du jeu. Mamadou Komina pour Sidio Tamani.
La page histoire de cette semaine parle de Sambou Kumba Julie.
Un enfant qui était réputé par sa grosse tête. Du dos de sa mère, il tomba dans l'eau et fut emporté par les courants. Pour en savoir plus sur cette histoire, écoutons Félicie Soko de Tambafeto dans la commune de Walia, cercle de Bafoulabé. Il est au micro de notre correspondant Moussa B. Sidibé.
Sambou Kumba, un enfant réputé pour sa grosse tête, était lié à mon arrière-grand-père à Tambafeto. Un jour, alors qu'il n'était encore qu'un petit enfant, sa mère le portait sur son dos pour traverser le fleuve en pirogue. Comme par magie, l'étoffe qui le retenait se détacha soudainement. Sambou Kumba tombe alors dans l'eau et emporté par le courant. Malgré les efforts des pêcheurs et le 40e jour, il réapparut soudainement seul devant les femmes du village au bord du fleuve. Toutes effrayées, elles courent pour alerter les hommes qui sont venus aussitôt pour le récupérer. C'est ainsi que Sambou Kumba devient un homme doté de dons extraordinaires. En voyant une femme, il était capable de deviner le nombre d'enfants qu'elle mettrait au monde. Et si Sambou Kumba annonçait qu'une personne allait mourir le lendemain, cette prédilection se réalisait.
À présent, Julie, on passe au sport. Le cricket, une discipline sportive méconnue au Mali, Julie.
Pourtant, ce sport est pratiqué dans plusieurs régions du pays et dans le district de Bamako.
La Fédération malienne de cricket déplore des difficultés matérielles. Ziadata Meïga.
Le jeu de cricket est une passion pour certains Maliens. C'est le cas de Mahamadou Mali. Il nous raconte comment il a découvert le cricket.
C'est pour Cameroun.
J'ai aimé le sport, c'est ce qui m'a poussé à pratiquer le cricket. Je joue dans l'équipe de Tata de Sikasso. Un jour, notre professeur nous a expliqué la pratique du jeu de cricket à l'école. Nous étions 6 personnes à commencer les entraînements. Je souhaite que le cricket se développe au Mali.
Bien que méconnu par le public sportif malien, cette discipline s'étend dans plusieurs régions du pays et a permis au Mali de participer dans des compétitions africaines et internationales. Kaori Berté, président de la Fédération malienne de cricket.
Elle se pratique dans le district de Bamako, Koulikoro, Sikasso, Azevou, Sang, Gao. Nous avons participé à la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud pour la deuxième fois au qualificatif de la Coupe du Monde 2020 en Tanzanie.
Plusieurs compétitions sont organisées par la Fédération pour développer ce sport dans le pays. C'est là, malgré des grandes difficultés, déplore Kaori Berti.
Notre plus grand défi là, on n'a pas de terrain, en notre nom, le manque d'équipement, le manque d'entraîneurs qualifiés.
À noter que les championnats nationaux de cricket, hommes et dames, sont organisés chaque année. Le Mali n'a pas encore remporté de trophée dans les compétitions internationales de cricket.
C'est sur cette page sportive que se referme l'édition de ce dimanche. Merci à toi Julie pour m'avoir tenu compagnie. Je vous dis au revoir en espérant vous retrouver la semaine prochaine.